48 FM et Radio Bartas sont au Festival d'Olt au Blémar. Un festival résolument envoûtant.
Du cirque,
des arts de rue,
des plumes,
des marionnettes,
du blues thrash,
du trip-hop baroque,
des masques
et du rock garage exotique. Une édition chamanique qui ne laissera personne hors de la ronde festive. Le Festival d'Olt du 25 au 27 mai au Blémar avec le Rude Boy Crew.
Et bonjour à tous et bonjour à toutes auditeurs et auditrices de Radio Bartas et de 48 FM. Vous êtes bien au plateau qui se déroule lors du Festival d'Olt. Alors, ça n'a pas vraiment encore commencé, c'est pour ça que nous on est là avant, parce qu'on veut profiter de tout en fait. Là, on travaille, mais bon, sur le principe, on a envie de profiter. Et je ne suis pas tout seul pour autour de cette table, bien évidemment, parce que sinon ça serait chiant, mais je suis notamment avec Julia. Salut Julia.
Salut.
Bonjour, comment vas-tu ?
Oh bah moi toujours plutôt bien, ouais.
Il y a des gens qui nous applaudissent et c'est pour ça qu'on fait ce métier, c'est ça qui est bien. Une émission réalisée par Corentin, 48 FM, merci beaucoup Corentin. Et nos premiers invités, évidemment, comment commencer par quelqu'un d'autre ? Déjà on a Seb, salut Seb.
Salut.
Qui est à peu près l'homme tout, j'ai pas envie de te donner un nom, programmateur, délégué général, qu'est-ce que tu préfères comme appellation ? Coordinateur ?
Ouais, c'est bien.
Coordinateur du Festival d'Olt et qui est très très bien entouré quand même, mine de rien, par deux élus, notamment Aurélie Mayol, vice-présidente de la région, bonjour.
Bonjour.
Et Sophie Montel, directrice de cabinet de Sophie Pantel.
Bonjour.
C'est bien ça. Jusque-là, je me trompe pas ?
Non.
Tout va bien, alors ça c'est chouette. Bon, on est à quoi ? Allez, une heure de l'ouverture des portes pour le début du Festival d'Olt.
1h28, oui.
1h28, exactement.
Il y en a qui ont la pression.
Ça va, Seb ?
Ça va, nickel. Moi, je tiens à remercier notre ami de Radio Bicarbonate qui nous a fait la technique. Là,
c'est vrai, c'est vrai. Ouais. Pardon, je l'oublie, c'est grâce à lui quand même qu'on enregistre. Merci beaucoup. Il sera avec nous tout à l'heure en direct. T'es à combien d'heures de sommeil là ces derniers temps ?
Cette nuit, j'ai fait 5 ou 6. Ça va.
Ça va ?
Ouais, c'est pas mal.
Ça va et tout.
Ouais.
Alors, comment ça se passe ce bientôt Festival d'Olt ?
Eh ben on a chaud, vraiment. Donc
c'est
assez rare.
C'est vrai qu'il fait plus ou moins 40 000 degrés, hein, on est d'accord.
Voilà, il fait 48 degrés sous les tentes. Et du coup, sinon, mais ça roule à peu près. C'est toujours le stress de ne pas savoir qu'est-ce qui est finalement prêt ou quoi. Ce qu'on sait, on a un code, c'est Sophie, notre scénographe, est en train de se teindre les cheveux. Elle est dans la phase blond platine pour la couleur. Donc du coup, on sait qu'on est dans les temps parce que normalement, c'est toujours à H-2 qu'elle le fait, donc voilà.
Le code blond platine, ça veut dire que tout roule, ça veut dire que...
Après la couleur, la vraie couleur vient après, mais voilà, donc ça veut dire qu'on est ok.
Une fois qu'on est au blond platine, ça veut dire que ça roule.
Ça veut dire déjà qu'elle est pas en train de faire autre chose, donc ça veut dire que la scène est terminée, donc voilà.
Et est-ce que tout le monde est arrivé là déjà ? Parce que la programmation est juste gigantesque, hein, comme chaque année,
bien évidemment. On a des problèmes avec des Suisses un peu.
Il y a toujours des problèmes avec des Suisses. Voilà. Je suis le premier à le dire.
S'il y a des Suisses qui nous écoutent sur Radio Bicarbonate, on va leur dire de prendre des assurances internationales parce qu'ils sont tombés en panne à côté de Saint-Etienne et donc il a fallu envoyer quelqu'un pour les chercher.
D'accord. Donc comme vous l'entendez, auditeurs, auditrices, il y a un racisme anti-suisse qui se met en place. J'ai peur. J'ai très très peur.
Tu peux ?
Je peux, merci. Et alors, nos deux autres invités qui sont là avec nous, j'ai envie de vous poser la question la plus simple du monde. Le Festival d'Olt, qu'est-ce que c'est pour la région, en fait, pour vous ?
Pour la région, le Festival d'Olt, c'est un festival dans un territoire rural de montagne qui est vraiment ancré toute l'année dans son territoire, parce que les Rude Boy, bon, ils organisent le Festival d'Olt, mais on les croise souvent sur d'autres manifestations. Et puis c'est aussi en Lozère un festival un peu déjanté quand même.
Un peu déjanté. Ouais. Qu'est-ce qu'on entend par déjanté, tiens ?
Bah justement, on ne sait jamais. On ne sait jamais ce qui va se passer. Et c'est un peu la particularité de ce festival. C'est un festival qui est à la fois familial, convivial, mais où on peut avoir des surprises. Alors moi, j'attends que vous m'expliquiez par exemple ce qu'est le trip-hop baroque.
Ça, on le saura en dernière partie d'émission.
Voilà, donc je vais rester jusqu'à la fin.
Une bonne
raison. J'ai trouvé les artistes, donc je vais avoir l'explication. Voilà, donc c'est tout ça en fait, le Festival d'Olt, c'est qu'on croise des artistes. C'est l'ambiance est toujours conviviale. Bon, cette année, il fait particulièrement chaud. En général, on a moins chaud. Mais voilà, pour la région, c'est un festival dans son territoire avec une association, des bénévoles qui bossent toute l'année et qui participent à la cohésion sociale et à la vie de la Lozère toute l'année.
Tout à fait. Sophie Montel, peut-être quelque chose à rajouter ?
Oui, bonsoir.
Bonsoir.
Mais pour le département, pareil, c'est un festival important qui démarre une belle saison. Au département, en plus, on essaye de conserver la même enveloppe pour la culture. Ce n'est pas une variable d'ajustement. Aujourd'hui, on essaye que tous les festivals puissent être représentés de manière équivalente sur le territoire, que tous les jeunes aussi puissent y aller et y participer. Et moi, c'est ma première personnellement, et c'est vrai que le temps est juste magnifique, donc j'espère qu'il y aura beaucoup de monde. Et c'est déjà bien agréable, les bénévoles ont l'air bien à fond.
Et c'est tout le monde a l'air bien prêt. Neige, hein,
c'est ça, il faut que vous reveniez chaque année pour que le temps
vraiment
soit...
le vivre. Oui, oui, c'est ça.
Et justement, c'est votre première, alors j'ai envie de vous demander, parce que vous avez un petit peu vu, vous avez parcouru les chapiteaux pour arriver jusqu'à ce plateau, vous avez vu aussi un petit peu l'esthétique qu'il y a autour des monstres et des masques qu'on voit dès l'entrée, justement. C'est quoi vos premières impressions, là ?
Justement, je trouve que ça mélange d'art de rue. Apparemment, il y a quand même des groupes qui représentent le département, la région. J'ai vu qu'il y en avait certains qui venaient même de département, donc une petite notoriété. Et chaque année, quand même, de pouvoir se renouveler, j'imagine que c'est pas simple. Mais oui, ça fait un petit côté déjanté et bien festif, ces petits masques.
Est-ce que ça te va comme définition, Seb ?
Tout me va.
Tout te va, complètement. Comment
Juste sur les décors, il faut quand même commenter ces décors, parce que c'est sur ce festival, c'est quand même un des atouts de ce festival, c'est remarquable, c'est de qualité professionnelle. Donc c'est quelque chose qui fait partie aussi de l'identité du festival d'Olt. Et de la même manière, c'est des organisateurs qui sont très ouverts et on retrouve tout au long de l'année les décors sur d'autres manifestations sur lesquelles vous êtes associés, par exemple souvent avec la Ligue de l'Enseignement. Voilà, on sait que c'est eux, quoi. C'est une touche.
C'est à eux, on le voit, on se dit tiens, ça
c'est le Road Boy Crew.
C'est le Road Boy Crew, d'accord. T'es encensé en fait là un petit peu au milieu.
Tu alors vois. Là c'est pas moi donc.
Oui, non mais.
Je représente. non mais oui mais c'est bien, c'est ce qu'on cherche. Mais bien sûr qu'il y a une Root Boy Touch.
Une Root Boy Touch, ça c'est bien.
Vous êtes maintenant donc heureusement qu'on a notre petite touche.
Vous avez regardé un petit peu la prog, je suppose, vous deux. Oui. Qu'est-ce qui vous tente le plus dans la prog pour faire des jaloux ?
Alors moi j'ai déjà regardé l'origine des artistes, donc j'ai noté qu'il y en avait de Montpellier, de Toulouse, enfin de toute la région, donc je vais être un peu chauvine. Et je vais aussi choisir dans ma sélection les arroseurs sur les conseils de Sébastien, voilà, tout simplement.
Et vous Sophie ?
Mais moi déjà j'ai deux enfants, donc je pense que je vais revenir demain pour les petits spectacles, voilà, et l'initier un peu aux arts de rue, les petits spectacles de marionnettes, je pense que ça l'intéressera. L'occasion de voir Guignol à Lyon, mais là je pense que ça devrait être un peu plus exotique. Non, moi il y a un nom qui m'intrigue, c'est le groupe Cannibal Rock Garage Exotique.
Très bon choix. Je dis ça, il m'a posé la question il n'y a pas longtemps sur mon coup de cœur et comme ça spontanément j'ai dit.
C'est vrai
j'ai
que c'est ce qui est sorti.
Ouais. Ça ressort dans la programmation.
Comment tu la sélectionnes toute cette prog, Seb ? Comment tu fais en fait ?
Alors, déjà, je suis pas du tout seul. Alors sur la rue, je suis plutôt seul. Enfin, plutôt seul. Je propose à un collectif qui réfléchit, mais moi mon boulot c'est vraiment lié aux arts de la rue. Donc la programmation, je la construis en fonction de ce que j'ai envie de proposer au public, d'essayer de mixer les propositions. Et sur la musique, c'est beaucoup Numa, qui est notre super cuistot, et Fanny, qui est notre super DJ, qui ont bossé dessus. Moi, je suis là à coordonner la programmation. C'est clairement pas moi qui fais la programmation. Là, je suis sur 2-3 groupes où je dis oui, j'ai envie d'eux, mais sinon c'est 3 personnes. Et d'autres gens qui gravitent autour pour donner leur avis et faire des propositions.
D'accord. Et là, on arrive mine de rien au moment, parce que comme tu nous l'as dit déjà, tu es là, tu es toute l'année. Enfin, c'est un travail qui se fait pas 3 jours avant, on va dire simplement. Donc, quand on arrive un petit peu à l'aboutissement du truc, on se dit ça y est, c'est ce soir, puis c'est demain, puis c'est après-demain. Comment on se sent ?
Ben, on se sent bien, mais après, on a peur que ça finisse trop vite. Pour de vrai, là, tout à l'heure à 8h, ça ouvre et la fermeture, c'est après-demain, ça va à une vitesse folle. Voilà, on est là depuis jeudi dernier. On bosse un peu beaucoup, le matin tôt, le soir tard.
Vous êtes combien de bénévoles ?
On est 180 bénévoles en tout, là.
En plus, tu m'as dit que c'était la fois où genre les bénévoles étaient pleins à craquer.
On a refusé des bénévoles, c'est une des premières années.
On en est là quand même.
Ouais.
Donc c'est bien.
Du coup, là, pour les arts de rue, il y a quand même vachement plus de spectacles que les autres années, non ?
Ouais, parce qu'on adore ça.
Ça.
Non, après il y a plein de choses. Il y a des choses qui sont goupillées. Par exemple, il y a une résidence qui est organisée en partenariat avec l'Atheline. C'est-à-dire, c'est l'Atheline qui organise une résidence de collectif Balles Perdues, Asile Club, spécial case dédié, voilà, et qui sont là depuis 10 jours et qui ont travaillé avec les jeunes du sentier. Enfin, qui ont fait plein de choses dans le village et Ça s'est inscrit dans notre programmation, mais c'est une résidence organisée par une autre structure en plus. Donc il y a plein de petits trucs comme ça. C'est une première année aussi, on a des petites formules pour du public un peu moins nombreux. C'est-à-dire des parties, des formules entre sorts, des spectacles un peu plus intimistes. Grosso modo, on est sur 3 spectacles grosses jauges par jour et autour d'autres propositions pour des plus petits nombres qui souvent jouent plusieurs fois.
Et du coup, Chape de Lune, ils étaient déjà là l'année dernière avec une création. Il y a un suivi en fait des compagnies avec le Rude Boy.
Bah alors l'année dernière, ils ont testé en crash test pour le public. C'était la première fois qu'ils testaient vraiment en public leur spectacle, qui était loin d'être fini. Et cette année, ils font leur spectacle. Je crois que c'est leur deuxième. Ils ont fait leur première la semaine dernière vers chez eux, là, vers Poitiers. Et là, c'est leur première.
Tu l'as vu ?
Et non, je l'ai pas vu.
Tu fais confiance.
C'est ça, la compagnie en résidence.
C'est
c'est de s'engager sur un projet, se dire ce truc-là, il nous intéresse. Et on le pousse et on s'engage. Toutes les résidences qu'on fait, on préachète les spectacles. C'est-à-dire, on dit oui, on vous diffusera quand ce sera fini. Donc, il y a pas mal de compagnies qui ont fait ça, qui ont testé une première fois en public. Voilà. Si je prends par exemple une compagnie comme Ratatouille Théâtre avec Radio Bicarbonate, il est toujours en train de tester en public.
Oui, y compris maintenant.
Tout est un test quand même, mine de rien. Et du coup aussi peut-être de point de vue d'élu, hein, l'élection, tout ça, on adore le fait de mettre en avant les arts de la rue et la musique dans un département comme celui-là, surtout à un moment où la culture a quelques petits problèmes depuis déjà un sacré bout de temps. Ça fait quoi de se dire que il y a ça et que c'est très très important pour ici et que tout le monde en parle sur toute l'année? Ça fait quoi d'avoir aussi ce dossier, je suppose, toute l'année?
Mais c'est très important, ça contribue à l'attractivité du territoire. Notamment pour ce festival, je pense, quand même 14 ans d'existence, il y a des gens qui doivent revenir chaque année. C'est un rendez-vous, à mon avis, incontournable pour certains. Et du coup, ça favorise aussi l'ensemble des villages autour. C'est une dynamique. Et voilà, c'est intéressant de toute façon pour le territoire aujourd'hui. Et encore une fois, voilà, la culture, surtout en Lozère, ça peut pas être une variable d'ajustement. Mais voilà, ça fait partie du territoire et ça favorise, oui, toute l'année les actions culturelles. Et en plus, le Rude Boy Crew participe quand même à certains événements du département depuis l'année dernière. Donc ils sont bien mis en avant et je pense que si ils sont sélectionnés, c'est parce que justement ils font partie intégrante du département de la Lozère aujourd'hui.
C'est vrai que c'est mine de rien très intéressant parce que moi c'est ma première édition, je suis encore jeune, je suis en Lozère depuis moins d'un an et pourtant je sais déjà que c'est un incontournable. C'est vous dire déjà la réputation que ça a quand même sur l'idée.
Pareil.
Eh ben, merci beaucoup en tout cas d'avoir été là autour de ce plateau pour débuter en l'émission direct. Et le festival. D'ailleurs, quelque chose à rajouter peut-être ? T'es contente d'être au Festival d'Olt ? Oui, ouais, elle est très
contente.
Elle est tellement contente. Merci beaucoup d'avoir ouvert cette émission. On vous souhaite un très très bon festival. Seb, on te souhaite bonne chance pour les 3 jours qui vont arriver.
Merci.
Bonne chance à tous.
Et puis, on va se faire une petite pause. On va se faire une petite pause musicale avant de retrouver. Qui ça passe ? Radio Bicarbonate ?
Ouais, Radio Bicarbonate. Et la Savès, du coup, qu'on va écouter tout de suite avec Antistar. You said, oh, what you wanna do now? I said, I'm hiding in plain sight. Always crashing in the same car, drinking in the same glass. All the colors that I see are just so white now, yeah. If I don't dance, I don't dance. If I don't dance tonight. If I don't dance, I
De retour au Festival d'Old dans cette émission spéciale 48FM Radio Bartas. On vient d'écouter La Savès et ça tombe vachement bien parce que on a un membre de La Savès avec nous. Salut.
Wouhou. Salut.
Salut. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais dans La Savès?
Je m'appelle Jules et je fais de la basse et des machines, clavier, tout ça dans La Savès.
Alors il faut quand même préciser que cet homme en face de nous a un tatouage sur son pectoral jazzy marqué et pourtant on parle de pop électro. Ça te va comme définition toi?
C'est pas un terme qu'on aime beaucoup en fait parce que ça regroupe plein de choses qu'on aime pas trop des fois, des trucs un peu consensuels on va dire. Donc on je pense que c'est vrai dans le sens où on fait de la musique qui est pop et qui est électronique aussi, qui est rock en live tout ça, mais donc c'est pas le terme qu'on apprécie le plus, mais on l'accepte parce que on va pas prendre la tête aux gens pour ça.
Et c'est vrai, c'est très intéressant ce que tu viens de dire dans le sens où ça donne, quand on dit pop électro peut-être tout de suite on pense commercial, alors qu'en plus vous venez du punk.
Oui carrément ouais. Mais justement, voilà, on n'est pas dans cette démarche-là. Donc du coup, c'est pop électro, ça nous fait un peu mal quand on nous dit ça, parce que on essaie justement de faire une pop qui essaye d'aller ailleurs que dans un truc easy listening, tu vois. Même si ça nous tient à cœur que ce soit accessible, mais on essaie quand même de fouiller un peu plus. Donc c'est pas un terme qu'on apprécie énormément, mais ça va quand même.
Alors tu verras avec les gens qui ont fait le programme, hein, tu leur diras c'est une honte, c'est un scandale.
Non, mais je pense que ça va, franchement.
Justement, sortir un petit peu, ça c'est vraiment une idée, genre, sortir de la pop comme on la définit aujourd'hui, sortir de l'électro comme on le définit aujourd'hui. Comment on fait justement pour se mettre un petit peu à part du easy listening?
Je sais pas s'il y a une recette, je sais même pas si on y arrive vraiment. Enfin, pour nous, on y arrive, mais c'est toujours subjectif.
Et comment tu essayes de le faire du coup?
Disons que dès qu'on entend quelque chose qui nous semble avoir été entendu ailleurs ou qui nous surprend pas trop ou qui paraît justement trop facile, on essaye de le détruire directement et de construire quelque chose d'un peu moins attendu. Donc après, je sais vraiment pas s'il y a une recette, c'est juste d'essayer de coller le moins possible au code du moment et essayer de trouver une voie qui peut être un peu parallèle. Et c'est vraiment un truc de dosage et je peux pas prétendre qu'on arrive à le faire non plus, mais
il y a une volonté de recherche et de création, justement toujours essayer de sortir un peu des sentiers battus quoi.
Oui, complètement ouais. Nous depuis le début c'est pour ça que pour cet album on a tout changé, on a tous appris des instruments différents et on s'est mis en danger tous dans notre petite zone pour essayer de justement sortir de la zone de confort et arriver à des choses qui nous surprennent nous-mêmes. Donc ça c'est le début de la démarche et après ça va plus loin jusqu'aux paroles, jusqu'à les gens avec qui on travaille pour les clips, tout ça. Donc c'est.
Et du coup, vous venez du punk, mais vous étiez, ouais. C'était le même groupe qui faisait du punk ou
c'était le même groupe, les mêmes membres qui faisaient du punk et qui maintenant ne font plus du punk et font le pop électro. j'ai du mal à le dire.
Du punk électro.
Voilà. Qui font de la pop électro. C'est dur, voilà, ça reste dans la gorge.
Ouais,
un petit peu.
Dans la gorge.
Et justement pour cet album dont tu parles, où tu disais tout le monde a appris un instrument différent, c'est un consensus que vous êtes tous mis, genre tiens on va tous essayer d'apprendre un instrument différent. Comment ça s'est passé en fait?
En fait on s'est retrouvé en studio et c'était la première avant avec notre groupe de punk justement, on enregistrait tous en live tout le temps sur bande un peu à l'ancienne, genre années 70 et tout. Et quand on s'est retrouvé en studio après, on n'avait plus les moyens d'enregistrer tous ensemble, ce qui nous a poussé à enregistrer des trucs séparés. Et du coup, comme on n'était pas tout le temps ensemble dans le studio, ben il y a des gens qui devaient faire des batteries quand le batteur était pas là, des gens qui devaient faire du clavier quand les gens qui savaient faire du clavier n'étaient pas là. Et ça pour tous les instruments et toutes les situations. Et on s'est même pas enregistré au début, donc on a appris à enregistrer aussi. Donc ça donnait plein d'accidents, plein de choses qui sont pas a priori autorisées dans le truc du studio où on a un peu poussé ça. Pour nous, en tout cas, on a. Et donc voilà, c'est toute cette démarche là, je pense, qui nous a poussé vers ce truc là.
C'est venu de la nécessité en fait.
Ouais, c'est venu du manque de moyens en fait, plus ou moins, et de la nécessité d'arriver à faire quelque chose avec des trucs qu'on maîtrisait pas.
Donc toi, t'étais bassiste à la base ou t'as appris la basse?
Moi à la base je suis guitariste et ouais. Là je fais surtout des claviers, des machines, et je connaissais rien à tout ce qui était électronique. On était un peu va des rétro satanas pour tout ce qui est électronique, et donc du coup on a dû surpasser ça et essayer de trouver ce qui pouvait nous plaire en tant que vieux rocker on va dire. Et c'est pour ça qu'on s'est intéressé aux vieux synthés analogiques qui étaient un peu détraqués, qui avaient des sons qui saturaient vite, tout ça. Donc on s'est tourné vers une partie de l'électronique qui nous plaît plus. Et voilà, ça a donné ces choses. Et là, c'est un peu un esprit punk transposé sur la musique pop électro.
t'as du mal, hein.
Non, mais en plus,
ça gratte la gorge.
En plus, tu t'insistes, toi, en plus, avec ça.
Complètement. Mais je vois que ça le met mal à l'aise, ouais, donc du coup, moi, je m'amuse parce que je suis un connard. Mais
je viens de réaliser qu'à l'époque, quand on faisait du rock et que tout le monde disait c'est du rock, on n'aimait pas entendre c'est du rock parce qu'il y avait une vague de groupes rock énorme et on avait l'impression que faire du rock, c'est devenu une sorte de truc hyper basique. Et pareil, nous, on essayait toujours d'inclure d'autres choses, y compris, tu vois, du hip-hop, y compris de plein de trucs, du post-hardcore, des trucs comme ça. Et quand on disait que c'était juste rock, on se sentait enfermé dans quelque chose. Et la pop électro, électro, je pensais ça aussi. Je me suis enfermé dans un truc qui pour les gens est juste Virgin Radio et qui pour nous est l'opposé de notre démarche en fait. Donc c'est toujours difficile. Mais en live, les gens comprennent la différence qu'on veut quand même pousser quoi.
Mais cette volonté de création, vraiment, de toujours essayer de sortir, bah, comme on disait, un peu des sentiers battus, et même de vous pousser à faire des trucs que vous connaissez pas, c'est hallucinant, parce que là, c'est vraiment rechercher des choses qui n'existent pas encore, justement, qui sont pas codifiées, etc. C'est vraiment une démarche, quoi.
Oui, c'est une démarche. Après, ouais, encore une fois, on peut vraiment pas prétendre, enfin, dire on y arrive et la musique qu'on fait est nouvelle, tu vois, c'est beaucoup trop.
Mais quand les journalistes le disent, ça passe. T'en
voilà,
fais pas.
Ben, on les laisse le dire, mais nous, en tout cas, on essaie de tendre à ça et si les gens nous disent ça, c'est le plus beau compliment qu'ils peuvent nous faire, quoi.
Et donc le deuxième album là qui est sorti ou pas encore ?
Non, le premier est sorti il y a un an et le deuxième on commence à faire des morceaux là justement.
C'est votre première fois au Festival d'Olt ?
C'est notre toute première fois, ouais.
Alors qu'est-ce que... Bah bon, comme on dit là, on est presque pré-festival puisque là les portes vont ouvrir dans un peu moins d'une heure, mais qu'est-ce que tu penses pour l'instant de l'ambiance, du machin ? T'as vu, là on est sous un chapiteau...
Bah c'est hyper cool, justement il y a notre Audi qui est mexicain, qui vit à Paris depuis peu de temps. Et qui en arrivant ici m'a dit qu'il trouvait les gens très très cool par rapport au Nord. Et je lui dis c'est normal que c'est un truc nous on est habitué parce qu'on vient de Toulouse donc c'est un truc où on est habitué mais on trouve tout le monde très cool et il fait super beau. On est torse nu pour sûrement la première fois de l'année.
Profite.
Ouais, on est allé voir la rivière. C'est hyper bien. C'est du chill.
Tout ça pour montrer ses tatouages, je te jure.
Voilà, mais... ça c'est toujours le moment de l'année où il faut qu'on lâche le grand jeu.
Comment vous vous êtes retrouvés ici? Comment ça s'est passé?
Bonne question. Je crois que le programmateur du Festival d'Olt nous a vu à la maroquinerie le 15 décembre dernier à Paris. C'est ce qu'il m'a dit tout à l'heure et qu'il avait vachement aimé et que du coup il nous a programmé ici. Il a vu avec notre tourneur ça, donc je sais pas tous les détails. Je peux pas te dire combien il a payé pour j'aimerais bien savoir. En tout cas,
voulu savoir.
Nous on est tout le temps payé pareil donc.
tu te fais peut-être avoir quelque.
Non, t'inquiète, on a nos petits arrangements, mais de toute façon, nous quand c'est aussi cool que ici. On viendrait gratos.
Et donc ce soir, c'est un petit peu vous qui ouvrez aussi. Enfin, c'est pas vous qui ouvrez les concerts, mais vous ouvrez le festival puisque c'est le premier soir de concert. Ça va, pas de pression?
Non, ça va, c'est cool. Non, non.
C'est le mot d'ordre en fait. C'est plus ou moins cool en fait.
Ouais, oui, c'est un peu le. À partir de maintenant jusqu'à la fin de l'été, ça va être ça.
Vous restez sur la suite du festival ou
Non, pas du tout. On joue après-demain à Sedan. Donc on est obligé de remonter à Paris demain pour aller à Sedan après-demain.
Ok.
Voilà, où il fera moins beau.
C'est les tournées, c'est compliqué.
Ouais. Mais bon, non, mais c'est cool. C'est cool.
Bah, merci beaucoup en tout cas d'avoir été avec nous
merci à vous.
Maintenant. Et puis on se retrouve tout à l'heure sur scène. Alors oui.
Non, rien, pardon.
Pardon, on ne sait pas.
Non, rien,
pas.
Je fais du théâtre, mais ça se voit pas du coup. C'est con. Ouais.
Ce qu'on est en train de faire, c'est une performance, hein, il faut pas l'oublier.
Oui, quoi. Oui.
On fait partie du truc.
Tout à fait.
Et ben, bah, donc merci beaucoup d'avoir été avec nous. On se retrouve tout à l'heure sur scène. Et puis, où est-ce qu'on peut retrouver la Savès en fait, si jamais on se dit, oh, c'est trop bien, j'ai envie d'acheter leur album
En live, près de chez vous, sinon sur YouTube, sinon sur iTunes, tous les trucs mercantiles.
J'ai pas demandé, mais La Savès en fait, c'est qui, c'est quoi, ça vient d'où, ça veut dire quoi?
C'est à la base le nom d'un archipel à l'ouest du Venezuela qui va sûrement se faire recouvrir d'ici quelques années, donc c'est un archipel a priori éphémère. Et voilà, on aimait bien l'idée, ça veut dire les oiseaux en espagnol aussi.
D'accord. Bientôt, ça sera vous La Savès et non plus l'archipel, vu que ça sera.
Voilà, c'est ça, c'est notre but en fait.
C'est bien pensé.
Au niveau juridique, on va prendre le dessus bientôt.
Merci beaucoup, puis à tout à l'heure.
Merci à toutes.
Est-ce qu'on passerait à Radio Bicarbonate?
Bah voilà, les novices et puis maintenant les habitués du Festival d'Olt.
Oui.
D'accord.
Mais je suis très très content parce qu'on a quand même un collègue journaliste avec nous. Parce que tu es journaliste.
Oui, je suis le journaliste de l'équipe. On est une équipe de 3 personnes et moi je suis celui qui joue le journaliste. Et il y a aussi un technicien, il y a aussi une chargée de production.
Vous avez toute la clique en fait, vous avez les personnes les plus importantes.
Bien, on essaye d'avoir une structure en tout cas de combat qui puisse être assez flexible et assez rapidement déplaçable et assez autonome, de manière à dépanner les radios qui n'arrivent pas à émettre.
On te remercie.
Et en tout cas, oui, on a une volonté de pouvoir se déplacer rapidement en petit nombre et de pouvoir être actif le plus rapidement possible là où c'est possible d'émettre et de porter une autre parole de journalisme en tant que média radio.
En tant que même média de proximité, si j'ai bien compris l'idée.
Oui, nous on se qualifie comme ça en fait, c'est-à-dire qu'on dit pas d'où on vient, hein. ça n'a aucun intérêt de savoir d'où on vient, ce qui est important c'est savoir où on va, bien, parce que nous on sait très bien d'où on vient, et médias de proximité effectivement parce qu'on va vraiment partout, que ce soit dans les quartiers, alors ici c'est le milieu rural, mais on va aussi dans des quartiers Villeurbanne, etc., on va dans des tout petits villages, on va dans des endroits complètement insolites où les gens ont perdu cette idée de voir débouler des plateaux radio, puisqu'à l'époque, il y avait le jeu des 1000 francs, il y avait la mallette, il y avait le Tour de France, tout ça. Donc il y a une époque où les radios en fait se déplaçaient énormément avec leur petite carriole pour aller faire leurs promos. Et puis ça n'existe plus en fait, c'est un temps qui est passé. C'est un peu comme le service public de Orange en milieu rural par exemple. Et donc nous, on essaye de remettre ça au goût du jour. Donc c'est pour ça qu'on dit un média de proximité, parce que ce qui nous intéresse, nous, c'est pas le gros bruit du chaos médiatique qu'on entend partout. Alors, avant toute chose, je vais tout de suite faire une distinction, hein. C'est-à-dire que nous, quand on parle d'autres médias, on ne parle pas effectivement de vous, les radios associatives non commerciales, qui êtes très très proches de nous, mais on parle des médias dominants qui sont tenus par des chefs d'entreprise dans l'armement français, dans la presse, dans le luxe, etc. On ne va pas citer les noms, tout le monde les connaît. Non. Et si jamais les gens les connaissent pas, ils vont sur le site acrimed.com. Il y a toute cette liste parce qu'il y a 8-9 personnes qui maintiennent tous les médias en France. Donc nous on s'inscrit en tout cas à l'inverse de ça, et donc les informations qu'on donne et le ton qu'on a je vous présente, c'est monsieur Tep, hein, c'est la partie technique de Radio Bicarbonate.
Bonjour.
Ah bah ça a l'air de bien marcher ici la technique.
je vous raconterai tout ça.
Technicien face à technicien, ça fait toujours des étincelles.
Donc on se présente comme un média de proximité, et on se présente aussi comme un média comme une épicerie de quartier. C'est-à-dire que nous on est ouvert 24/24 avec la parole des gens simples et des petites anecdotes locales, etc. quoi.
Et vous en faites quoi du coup de cette parole ?
Eh bien, on la retransmet aux gens, c'est-à-dire qu'on la fait écouter. Pour nous, ce qui est important, c'est de pouvoir faire écouter d'autres gens qui parlent. Parce que quand on regarde les journaux télévisés ou quand on écoute les grands journaux des grands médias, des grandes radios, on entend toujours les mêmes personnes, en fait, qui ont toujours les mêmes propos et qui sont toujours, entre guillemets, à la solde des mêmes idées, quoi. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est de pouvoir interviewer des gens. Ici, au Blémard, on va avoir un bénévole qui est aussi dans l'éducation nationale. On va avoir un vieux monsieur qui est arrivé ici il y a une quinzaine d'années, qui a ouvert des gîtes dans la campagne. Voilà, donc pour nous, ce qui est important, parce qu'on diffuse partout après sur Internet, pour nous, ce qui est important, c'est que les gens entendent une autre façon de penser et de parler, en fait. Et rien que ça, je pense que ça justifie notre travail, en fait.
Alors justement, pour se mettre à l'encontre de nos estimés, ô combien estimés grands collègues,
nous on les combat. Hein.
Ah oui oui.
Nous
oui,
c'est pas
oui.
Non, nous on est du sport de combat. On est une radio pirate déjà. On revendique cette identité, et effectivement nous on combat sur des bases un peu de Bourdieu et d'analyse critique des médias. Nous on combat les médias dominants, bien évidemment. Et c'est une des parties de notre projet aussi. C'est comme on joue en public dans la rue, les gens nous voient faire. Et par exemple, Monsieur Tep qui est à côté de moi,
en train de réparer un téléphone,
en train de réparer son téléphone pour demain justement. Et ben ça, c'est drôle, j'allais parler de cette anecdote. C'est-à-dire que pendant l'émission, il m'appelle avec un téléphone, avec un son de téléphone et tout.
Ah bah donc... non, balance pas tout. Spoil pas.
Ah, on a tellement été vus au Blémard qu'on peut plus rien cacher. Mais en fait voilà, donc Monsieur Tep m'appelle avec un téléphone, une voix téléphone. Ce que font aussi les médias tels que France Inter, au téléphone sonne, etc. Et quand on a personne d'intéressant, on fait appeler le technicien dans le studio d'à côté, quoi. Donc nous, on démonte cette mécanique. On a un travail aussi de démontage de la mécanique des médias sur comment ils font les interviews, comment ils font la complicité entre les journalistes et les interviewés, comment on traite les auditeurs, comment on fait. Nous, on est devenus des spécialistes du micro-trottoir, parce que le micro-trottoir est un peu à la radio ce que la publicité est au cinéma d'art et d'essai. Donc nous, on utilise ce média-là qui est le micro-trottoir à notre sauce à nous, qui est vraiment très très différente de ce qu'on entend dans les autres radios, pour montrer aux gens comment ça se fait et comment ça marche, pour essayer de faire comprendre aux gens qu'est-ce que c'est ces choses qui viennent vous raconter la vie et qui vous expliquent comment il faudrait vivre. Donc voilà, je me suis un peu étendu, mais donc nous, les médias dominants ne sont pas nos collègues, nous sommes en combat pacifique et intellectuel, mais en combat.
Est-ce que c'est vos collègues à vous?
Ça, c'est une grande question. Est-ce que c'est nos collègues à nous? Je veux dire, j'ai pas envie de répondre là tout de suite, Julia.
Moi, à part Camille et Corentin, j'ai pas de collègues.
Voilà, exactement. Nos collègues à nous, ils sont là, en fait, pour l'instant.
Bah, ce qu'il faut savoir quand même, parce qu'on le sait, hein, c'est que les radios associatives non commerciales, il y a de l'argent qui est prélevé sur les médias dominants que sont RTL, France Info, France Inter, etc., Europe 1, tout ça, et qui vous est reversé. Et nous, on trouve ça super qu'on pique de l'argent à ces gros médias pour vous les reverser à vous. Nous, par contre, Radio Bicarbonate, notre gros avantage, c'est que les seules personnes qui nous payent, c'est les gens qui nous font venir, en fait. Et en plus, vu ce qu'on leur fout dans la tronche, c'est assez courageux de leur part de nous laisser ouvrir notre gueule dans les festivals, quoi.
Et vous avez encore du blanc de Garance?
Eh bien, il faut demander à Seb. Tiens,
il faut demander à Seb, puisque...
Tiens, c'est celui de la conseillère de Sophie Pantel, elle l'a pas bu, en fait.
Bah non, parce qu'elle est là dans un travail sérieux, vraiment, attends, faut pas déconner. Je voulais revenir, puisque tu disais, en fait, t'as parlé de la manière justement de démonter comment ça se fait, mais en ce qui concerne les sujets, en fait, simplement, que vous abordez, comment justement on combat sur les mêmes sujets, en fait, comment on combat les médias dominants sur leur terrain, en fait, sur les mêmes sujets que eux abordent, comment vous les abordez?
Bah, nous déjà on les combat sur la forme, hein, parce que sur le fond il y a pas grand chose à faire, hein, ils sont tellement ridicules qu'on va pas les chercher bien loin, le fond, hein, on va pas non plus perdre du temps à intellectualiser sur ce qu'ils sont. Il y a déjà assez de gens qui l'ont fait avant nous. J'ai parlé de Bourdieu tout à l'heure, Serge Halimi, en fait, le Monde Diplo, Acrimed, etc. Il y a énormément de gens qui travaillent là-dessus. Moi je viens de là, de ce réseau-là aussi, des études de sociologie, analyse critique des médias. Nous on les combat sur le fond, sur la forme, en fait, c'est-à-dire qu'on utilise les mêmes formes qu'eux, c'est-à-dire qu'on a un format d'émission avec un générique, une présentation d'invités, des micro-trottoirs, des publicités, des chansons au milieu d'émission. Ça ressemble un petit peu à Pascal Clark si jamais ça avait vocation à ne pas être de l'abrutissement des masses, en fait. C'est même elle un peu qui nous a inspiré au démarrage. On s'est dit, tiens, le format de Pascal Clark, il est super, donc on va reprendre le sien et on va le faire à notre sauce à nous. Et donc on utilise tranquillement juste la façon qu'ils ont, eux, de faire les choses, et les gens se rendent bien compte que entre les micro-trottoirs qu'on fait nous, par exemple, je reviens là-dessus parce que c'est un peu notre marque de fabrique, en dehors des interviews en direct, mais ça je peux pas vous le faire, qui sont quand même des interviews qu'on pense qu'on est à peu près les seuls à faire des interviews de ce type-là.
Sont remarquables.
Merci, je ne sais pas si c'est remarquable, mais en tout cas, nous, on se permet d'insulter l'invité, on se permet de le virer s'il nous fait chier, etc., etc., quoi. Mais voilà, on les combat sur leur forme pour démontrer aux gens qui nous ont vus, parce que les gens ici au Blémar, ça fait une semaine qu'on est là, qu'on interviewe les gens dans les rues, etc. Ils nous ont vus faire, ils nous ont vus travailler, et quand ils vont entendre le résultat qu'on va faire, parce que bien sûr, avec Nico, on est un petit peu taquin, donc on remonte ce que les gens nous disent d'une manière qui nous arrange pour leur faire dire ce qu'ils n'ont surtout pas dit, et du coup les gens s'entendent et se disent, ah, oh, mais non, mais j'ai pas dit ça. Et en même temps, comme ils se marrent parce qu'on le traite sous la forme de l'humour, c'est à cet endroit-là qu'on les combat, en fait.
Mais c'est là que notre méthode ne diverge en rien des médias dominants, par contre.
C'est vrai. C'est tout à fait vrai. C'est vrai. Moi, j'aimerais vous poser une petite... Ah oui, non, mais il a dit le truc maintenant, ça a laissé un grand blanc, etc., mais parce qu'il a raison. J'aimerais vous poser une petite question à tous les deux, puisque il y a une grande revendication, justement, Radio Pirate. On sait ce qui est arrivé au Radio Pirate, hein, quand ça a commencé à faire trop chier, on a arrêté ça, en fait, aussi simple que ça. En ce moment, avec la certaines libertés qu'on peut trouver sur Internet, avec des choses comme Radio Debout qui se sont développées, etc., vous pensez qu'il y a une renaissance un petit peu de ça, qu'il y a moyen, justement, d'avoir une information différente et plus largement accessible?
Alors, spontanément, je dirais oui, et dès que je réfléchis 2 secondes, je dirais attention, quoi. Parce qu'effectivement, avec les nouveaux médias, les nouveaux moyens de faire des médias, il y a plein de choses qui sont arrivées, mais on voit aussi des gens qui récupèrent ces médias-là pour balancer des espèces de saloperies qui sont quand même insupportables. C'est-à-dire que nous, on combat autant les médias dominants que tous les espèces d'extrémistes qui balancent des idées, des fake news, des choses nauséabondes. Les complotistes, tout ça, ne sont pas plus nos amis que les médias dominants. Hein. Donc oui, après, nous, dans l'esprit des radios libres et des radios pirates, c'est que ce qu'on revendique de manière fondamentale, c'est la question de la liberté d'expression dans l'espace public, puisque nous on ne fait que de l'espace public, on est toujours face à du public, on est toujours dans la rue, on ne fait jamais d'émissions en studio, on ne fait jamais d'émissions cachées, on peut se faire interpeller à tout moment, on peut se faire agresser à tout moment, ce qui nous arrive pas souvent, mais de temps en temps on a quand même quelques quelques électeurs du Front National qui ne comprennent pas que le second degré n'est pas qu'une température, comme j'aime bien le rappeler. Donc oui, nous on défend ça. Après maintenant, j'avoue que je suis pas sûr, mais Monsieur Tep a peut-être plus d'expérience que moi, mais je suis pas sûr que les nouveaux médias et tels qu'ils sont développés. Je pense qu'il y a une grosse avancée, mais je pense qu'il y a aussi une bonne grosse reculade de vieux moyenâgeux là, à qui on a redonné la parole du coup quoi.
Bah ouais, ça c'est intéressant parce que en fait ça dépend de quoi on parle. Si c'est au rapport en termes de technique, par exemple, on a beaucoup plus de possibilités que dans un passé assez proche. On peut faire une radio en moins de deux avec très peu de moyens, avec très peu d'argent. La ZAD par exemple pourrit avec plaisir le 107.7, c'est-à-dire ses ennemis directs par rapport à leurs propres revendications. C'est assez génial parce qu'ils réussissent à en gros à acheter des émetteurs chinois et à émettre grâce à ces émetteurs chinois. Donc on voit là où le marché court-circuite la loi, notamment le CSA quoi, en France, c'est-à-dire il y a des lois très établies, on est censé réserver certaines bandes, mais on peut acheter sur eBay des émetteurs qui eux-mêmes ne connaissent pas ce genre de limite-là. Et c'est assez génial. En fait, ça pourrait inspirer n'importe qui. Mmh. Si toi, ça t'emmerde n'importe quoi, Skyrock, tu peux tout à fait acheter un petit émetteur qui coûte vraiment pas très cher. Et pour tous tes voisins, tu vas bananer une nouvelle onde parce que tu estimes que Skyrock, c'est une espèce de squat. Enfin, c'est un truc qui te plaît tout simplement pas. Et tu vas prendre sa place. Et ça va marcher. C'est-à-dire que ta voisine va prendre ton nom à toi, ton émission à toi. C'est assez beau. Techniquement, c'est nouveau. Même il y a 10 ans, c'était difficile. Il y a 20 ans, ça n'existait tout simplement pas. Avec très peu d'argent, on peut faire ça. Après, tout le monde peut le faire. Après, ce qu'on fait nous-mêmes avec cette possibilité-là, ça, c'est un autre problème. Mais je prends l'exemple de la ZAD parce que justement, c'est un exemple emblématique. C'est-à-dire... si on le veut, il y a assez peu de radios pirates de droite, par exemple. C'est...
À part nous.
Oui, bah oui. Bah
oui.
On est...
ouais. Oui, parce que nous,
c'est aussi pour ça que ça marche aussi bien. On arrive à faire la moitié de notre intermittence grâce à ça, parce qu'il y a assez peu de gens dans ce modèle-là, effectivement.
Mais il y a vraiment une question de... Tu parlais tout à l'heure d'espace public. Il y a vraiment une question de réappropriation de l'espace public, en fait. C'est à nous et ça nous appartient.
Eh bien, c'est pas une question de réappropriation parce qu'en fait, l'espace public n'a jamais été libre, en fait, encore actuellement en France. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on se pose la question de quand est-ce que l'État français a défini ce qu'était l'espace public, c'était il n'y a pas si longtemps que ça. C'était juste pour définir la présence ou non du port du voile dans l'espace public. C'est la première fois que l'espace public arrive dans un texte de loi en France. Donc la réappropriation, nous, on va pas se réapproprier puisqu'on on l'a toujours pas gagné. Nous, on lutte contre la marchandisation de l'espace public. Bien évidemment, contre les terrasses de café à la Grande Motte, contre les petits trains en plastique qui véhiculent des gens qui ne comprennent rien à ce qu'ils font, et contre les arrêtés anti-manicité qui ont été mis sous Nicolas Sarkozy, contre tout ça. On a tellement de combats à mener qu'on n'est même pas dans la réappropriation, on est juste dans la revendication que l'espace public soit réellement public. Et tout à l'heure, j'entendais, alors on va pas faire du radio bicarbonate à votre antenne, mais tout à l'heure, j'entendais votre invité qui disait c'est super, ça rend le territoire attractif. Nous, on s'en fout, on n'est pas là pour rendre le territoire attractif, nous, on est là pour y vivre, en fait.
Oui, j'ai été soufflé. Mais dis quelque chose, enfin, dis quelque chose. Non, mais oui, tout à fait. C'est j'aurais presque envie de dire la conquête, en fait, quelque part, de l'espace public. Même si c'est pas une conquête, en fait, c'est une revendication. Revendiquer cet espace-là.
Bah, comme Bourdieu disait pour la sociologie, c'est un sport de combat. Nous, on considère que faire un média libre et indépendant, c'est un sport de combat, ouais.
On n'a pas précisé, mais ça s'appelle bicarbonate pour une raison, quand même.
Bah, pour plusieurs raisons, ça s'appelle Radio Bicarbonate. Déjà, c'est un hommage à Carbone 14, la radio emblématique des radios pirates dans les années 80, avant l'arrivée de Mitterrand. Donc il y avait les radios pirates. Donc Carbone 14 était quand même la locomotive. Et moi, à cette époque-là, parce que ça se voit pas la radio, mais j'avais déjà l'âge d'écouter la radio en cachette le soir sous mon oreiller et tout. Où Carbone 14, par exemple, disait où étaient les bons plans pour aller taxer des choses, où c'est qu'on pouvait trouver de la drogue, etc. Il faisait l'amour à l'antenne, enfin c'était un truc complètement dingue. Donc voilà, Carbone 14, et après bien sûr bicarbonate, parce que le bicarbonate de soude, c'est quand même un produit qui décape assez facilement, qui fait les dents blanches et accessoirement fait la laine fraîche. Donc on espère que Radio Bicarbonate sert à ça, pas pour la laine mais pour le cerveau des gens.
D'accord, la laine fraîche c'est quand même très important au micro sur les bonnettes, hein. On s'en rend pas compte comme ça, mais
C'est surtout important pour celui qui passe après.
Voilà, c'est exactement ça. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux, on vous retrouve toutes les après-midi en fait
plus ou moins, et même les soirées sur le festival d'Olt, justement avec les interviews que vous avez fait. J'espère que ce téléphone est réparé, en tout cas, et que ça va marcher.
On est plus précisément là demain à midi et samedi à 12h45.
C'est beaucoup mieux la précision, merci beaucoup. Julia, on se quitte un petit moment avant de retrouver Corpo Mente.
Voilà, et ben justement, on va écouter Corpo Mente avec, alors ça je sais pas vraiment si je vais arriver à le dire parce que j'ai un peu du mal, Arsalein.
De retour au plateau spécial Festival d'Olt, on vient de s'écouter du Corpo Mente, ce que je prononce sûrement extrêmement mal. Alors il faut savoir que c'est ça.
Très bien.
Il faut savoir que Corpomente, c'est ceux qui sont là depuis le début du plateau et qui applaudissent et qui nous font des sourires. Donc c'est des gens bien sur le principe. Et celle qu'on vient d'entendre,
à la base, oui.
Celle qu'on vient d'entendre, lors le Prunonec.
C'est ça.
C'est la voix.
C'est ça.
Bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être avec nous là maintenant. Alors,
merci.
Je pense que c'est la question qu'on vous pose tout le temps, mais moi j'ai très envie de savoir ce qu'on entend par trip hop baroque, parce que je pense que c'est le truc qui m'a tout de suite accroché l'œil.
Oui, alors bon, moi déjà j'ai un petit peu de mal avec les étiquettes, quelles qu'elles soient, parce que dès le départ, nous on cherchait juste à faire quelque chose qui nous ressemble. Et du coup, ouais, trip hop. Je saurais même pas vous dire moi-même ce que c'est.
On va virer l'étiquette en fait, tout simplement.
En fait, Corpomente, c'est uniquement, enfin, ce qu'on a voulu faire, c'est un mélange entre quelque chose de très un peu crade et quelque chose de très classe en même temps. Et voilà, le mélange des deux, ça donne ça. Quelque chose de très lourd et à la fois de très aérien. Voilà.
Si on analyse un tout petit peu le truc, on se pose 5 minutes, on réfléchit, mais pas trop, faut pas déconner. C'est le,
non,
t'as le,
ça sert à rien.
T'as justement la musique qui en effet est beaucoup plus un petit peu trashouille, et en fait il y a ta voix par dessus qui s'élève. Donc c'était vraiment jouer en fait sur un petit peu cette dualité.
C'est ça, oui. Bah quelque chose de très matériel, de très bah un peu ce qu'on vit en tant que humain ici sur Terre. Et puis il y a le côté aussi humain derrière qui se cache, voilà.
Et
on a voulu représenter un peu ces deux, cette dualité là.
Et cette voix justement, ce travail de la voix, oui. C'est qu'est-ce que c'est? D'où ça vient en fait cette voix, ce travail là, ces sonorités là, d'où ça vient?
C'est très simple. Chanter, pour moi, c'est quelque chose de très simple, qu'il ne faut pas du tout chercher à complexifier avec des analyses ou autres. C'est vraiment quelque chose qui me permet, moi, de m'exprimer, parce que j'ai un peu de mal déjà à m'exprimer correctement avec par la communication. C'est direct comme ça, c'est toujours un peu délicat pour moi. Donc le chant, c'est une porte de sortie, déjà, à la base, c'est ça. Et puis ensuite, oui, c'est un travail, mais rien de très compliqué.
Je te remercie d'être venu au micro, quand même, mine de rien. Si c'est genre, j'aime pas m'exprimer, merci beaucoup d'être là. Quand même.
Je travaille, en fait, sur ma timidité. J'essaye de passer au-dessus.
Petite thérapie à 48FM.
Je suis très content de pouvoir t'aider. Ça me fait plaisir. Plaisir partagé. Plaisir d'offrir, joie de recevoir. Et on a quand même quelqu'un qui est venu juste à côté se rajouter, qui fait aussi partie de Corpomente.
Oui.
Mais le micro, pas du tout le micro, je ne sais pas.
Je suis le batteur de Corpomente.
Le batteur.
Je représente des autres musiciens aussi qui sont juste à côté en train d'écouter et de faire des grimaces à chaque fois.
Faire des grimaces, mais voilà. Aussi d'applaudir et de sourire.
On aime ça. C'est cette simplicité-là qu'on aime.
C'est ça.
Voilà.
C'est ça. Alors, putain, c'est génial. C'est génial. C'est pour ça que je fais
ce boulot. Détendu. Hein. On est bien. Il fait beau en plus.
Bon. Pour l'instant, on est sous le chapiteau, donc il fait encore bon.
On est
bon,
très
quoi,
bien.
Sur l'idée. Et c'est votre première fois au festival
Dolt, oui. Oui.
Ouais. Comment ça s'est passé? Comment vous êtes retrouvé ici, en fait, simplement?
Par les réseaux sociaux.
Aussi simple que ça.
Tout simplement.
Voilà. On aime bien ce que vous faites, vous pouvez venir, vous avez dit oui.
Voilà, il y a quelqu'un qui s'occupe de ça et il a répondu. Et...
C'est bien foutu quand même.
C'est bien foutu, ces réseaux sociaux, finalement.
Ouais, hein, mine de rien.
Exactement.
Et
ça n'a pas que des mauvais côtés.
Alors, je peux répondre, hein.
Mais tout à fait. DJ Fillette qui est avec nous aussi. Oui, c'est vrai que j'ai pas précisé parce que j'ai aucun savoir-vivre, mais on est avec les trois invités qui sont en face de nous et aussi le collectif Balle Perdue.
En fait, la venue de Corpomente, c'est à la base, je suis tombée sur, effectivement, par les réseaux sociaux, par YouTube, sur une vidéo de vous. Et j'ai surkiffé, j'ai adoré. Et on a écouté ça. Merci. Avec Numa et qui fait la prog aussi. Et voilà, et du coup, on a tout fait pour que vous puissiez venir.
Ah, c'est gentil, merci.
Voilà.
Merci.
Il se passe des belles choses. Content. Il se passe des belles choses autour
de
ce
plateau. C'est beau,
hein. C'est un partage.
Ça me touche dans mon petit cœur. Peut-être juste pour revenir sur la musique, ce que vous créez. Donc, de toute façon, on vous retrouve dès ce soir. D'ailleurs, le jeudi soir, vous faites partie de ceux qui ouvrent le festival. Quand vous travaillez, quand vous créez, quand vous composez, justement, alors, sans faire des analyses chiantes, hein, parce que c'est pas la question, mais est-ce que justement, il y a plus d'abord de la création de la musique, puis après la voix, ou est-ce que vous partez de la voix, ou est-ce que tout se rajoute en même temps? Comment vous composez, en fait?
Bon, alors là, ce qui s'est passé, c'est qu'entre deux, on a fait un groupe, vraiment. Parce qu'au départ, c'est Gauthier et moi qui composions les musiques. Donc Gauthier s'occupe de la partie musique et moi de la voix. Donc je compose toutes mes voix, les chœurs, etc. Sur l'album là, donc Corpomente, l'album éponyme. C'est comme ça qu'on a procédé en fait avec Gauthier. Dès le départ, il m'envoyait des idées, des guitares ou des bouts de chansons qu'il avait déjà et moi je composais par-dessus.
Okay. Voilà. Il y a l'idée de composer d'abord certains parties de la musique, de te les envoyer à toi qui ensuite compose avec la voix par-dessus, puis de renvoyer le tout pour finir de composer.
C'est ça.
C'est pas mal. Comme,
à distance.
Une alchimie en fait, presque on pourrait dire. Il y a un petit côté alchimique.
Mais je pense que des deux côtés, on avait des choses à dire et qu'on avait un petit peu enfermé dans un placard. Parce que Gauthier déjà c'est Igor, faut dire aussi, donc il est très occupé par son projet. Et moi j'ai Ricine de mon côté, mon projet personnel. Donc on était tous les deux un peu comme ça à vouloir protéger un peu nos projets en premier lieu. Et puis ensuite on s'est dit tiens il y a ça qui traîne. Il y a Gauthier qui avait beaucoup de compositions qui était enfermé quelque part et qui sortait pas, et je trouvais ça dommage. Côté plus folk, plus doux, plus qui gore quoi, et je trouvais ça dommage que ça en reste là. Donc on a décidé de faire un album avec.
Et voilà. Alors dans l'idée de la grande question qui fait un petit peu peur, mais tu parlais justement tout à l'heure de faire ressortir voilà ce que le côté humain et ce que tu ressens justement toi avec cette voix sur cet album là et même ce que vous allez jouer ce soir, c'est quoi les sujets ou ce que tu as envie de dire ou ce que tu fais passer à travers ta voix? Elle fait mal ça, elle est grande, hein, je suis d'accord.
Bim. J'aime bien le côté un petit peu pas très clair en premier abord dans les apparences. J'aime bien que les choses soient un peu cachées, c'est pour ça que j'utilise un langage à moi que j'ai inventé. Pour chanter uniquement, c'est pas du tout un langage codifié avec un dictionnaire ou quoi que ce soit, c'est vraiment un langage pour s'exprimer, pour avoir une expression libre de tout, de toute barrière, des mots qui moi me gênent énormément, juste avoir le son et voilà un langage qui m'appartient mais qui est très du coup très dans l'émotion du moment, du présent, voilà.
Alors du coup maintenant je suis très 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 intrigué puisque tu parles d'un langage que tu as inventé. Je suis très curieux. Tu as créé pour toi une forme de parole, une forme de communication.
C'est ça. C'est ça.
Tu peux nous en dire un peu plus parce que je suis intrigué.
Ben en fait quand j'ai vraiment commencé à composer de la musique, je devais avoir une vingtaine d'années. Quand j'ai vraiment commencé à composer, j'ai trouvé vraiment ma voix, j'ai l'impression, en testant des choses. Pendant 6 mois, j'étais enfermée dans une cave quelque part. Et j'ai fait que ça tous les jours, à chercher mon timbre de voix propre. Et donc, sans rien, sans musique, sans base, ni quoi que ce soit, j'enregistrais une ligne de voix, et puis une autre qui se superposait, et je trouvais ça beau. L'harmonie que ça donnait et j'ai trouvé une espèce de force comme ça, une espèce de voilà, et puis bon bah forcément influencé par Magma, par Laurent Lunoir aussi qui fait un projet qui s'appelle Oxoxoux avec qui j'ai fait pas mal de compos aussi et qui est dans Igor en tant que chanteur aussi, qui m'a beaucoup influencé dans cette manière de communiquer qui est différente mais qui est vraiment propre à chacun. Voilà.
Tu la comprends cette langue?
Oui.
Ah. Oui, alors, je te passe.
Elle nous explique ce qu'elle veut faire passer.
S'explique.
À travers ça, puis même à travers la musique aussi, on le ressent. Et c'est des sentiments, c'est beaucoup de choses.
Et composer par rapport à cette langue et par rapport justement à cette voix, comme on disait tout à l'heure, quand la musique se compose, se passe, etc. Comment c'est de travailler comme ça justement, enfin de composer, comment ça se passe?
Là, on est vraiment sur du live, donc c'est autre chose que la compo réelle, vraiment du disque. On travaille sur des éléments vraiment qui sont propres à chacun des musiciens. On vient tous d'un univers aussi différent, mais mais on, c'est un rassemblement de, d'univers qui est, où on s'entend bien, on a écouté la musique, on, tous ensemble, on est des amis aussi, à travers, on n'est pas que des collègues, et du coup c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de partager ce, cet esprit-là, et puis Laure, elle nous explique ça justement aussi, à travers ça. Tout est traduit, ouais, voilà.
J'ai l'impression qu'il y a, il y a pas du tout, et c'est pas du tout négatif ce que je veux dire, mais il y a complètement, on enlève le côté technique et on fait justement beaucoup plus par rapport aux émotions et par rapport à ce qui se crée sur le moment.
Chacun son vocabulaire.
Voilà.
Oui. Puis c'est une manière, c'est un peu thérapeutique aussi. c'est une façon aussi de m'expliquer ma propre vie, parce que là, je sors tout. Quand j'enregistre, tout sort comme ça vient, quoi. Et puis à un moment donné, je me pose et puis j'écoute et je prends de ce que j'ai fait. Donc et là, les mots sortent et le langage arrive en fait. C'est à ce moment-là que vraiment que ça prend un sens. Et puis ça m'explique beaucoup de choses. Voilà.
Bah, merci.
La musique m'aide.
Merci beaucoup en tout cas de nous avoir expliqué cette manière de faire. J'avais jamais entendu, je suis très content d'avoir entendu ça, mine de rien. On vous retrouve en tout cas à minuit et demi. Merci. Ce soir sur la scène. Et je vais me tourner vers DJ Fillette, justement, qui a tout à l'heure élevé sa voix, justement. DJ Fillette, toi, tu vas finir avec le DJ set ce soir à 1h45. Ouais. Mais tu fais pas que ça, t'es une résidente ici.
Mais j'habite pas du tout ici, mais de fil en aiguille. Et oui, bon, en fait, d'ailleurs, je les remercie, le Root Boy Crew, de me laisser autant de place, de carte blanche et de me faire autant confiance, parce que en fait le projet de DJ, il est né il y a un an et quelques, et qu'il est né juste comme ça, comme une idée, et pour faire leur soirée de soutien qui était le 5 mars l'an dernier. Et en fait de là, ça a été super, et du coup ça a été carte blanche pour faire la clôture du festival d'Olt l'an dernier, le samedi soir, devant 800 personnes dans ce super beau chapiteau bar. Et du coup, voilà, ça a marché. Donc, je les ai suivis à Chalon. Et puis, de fil en aiguille, ils m'ont proposé de faire la programmation musicale avec eux. Et donc, je les remercie. Je suis hyper contente, en fait. C'est hyper complet, ce qu'ils me proposent et ce qu'ils m'offrent. Et du coup, même si j'habite pas ici, c'est vraiment la Lozère, c'est dans mon cœur, quoi. Voilà.
C'est très, ça, il faut le garder, il faut le découper, il faut en faire un truc. Bref,
faut le mettre en boucle.
Faut le mettre
je
en
peux
boucle.
Le sampler.
Et il faut complètement le sampler. La Lozère est dans mon cœur. Bref. justement, par rapport à ça, on a demandé tout à l'heure à Seb comment on faisait en fait pour faire une prog aussi pointue et aussi ouverte.
Ben, moi, ça fait longtemps que je suis sur un autre festival dans la Drôme qui s'appelle Rencontre entre les mondes et qui a lieu maintenant depuis 2 ans en même temps. Et j'ai été très en lien avec le programmateur, donc ça m'a donné, et puis je suis aussi musicienne en fait à la base, donc des concerts j'en fais et des groupes j'envoie, donc j'ai 1 milliard d'idées déjà à la base des envies et en programmation. Du coup là c'était juste, j'avais déjà les idées, le langage, et il manquait plus que l'espace. Donc là l'espace, ça a été très vite de trouver les groupes de ceux que j'ai déjà vus, qu'on avait déjà aussi programmé au festival Rencontre entre les mondes il y a longtemps et que j'avais envie de voir ici parce que je savais que ce serait
approprié, tout à fait.
À propos.
Et c'est toi qui va finir en fait un petit peu la première soirée du festival, c'est toi, enfin
ouais,
la soirée
après
s'ouvre.
Avoir fait la dernière l'année dernière.
Maintenant tu fais la première.
Je fais la première.
Il y a une différence entre les deux quand t'as programmé pour.
C'est sûr.
C'est quoi la différence entre une dernière soirée et une première soirée ?
Eh ben, je te le dirai demain.
Ok, d'accord. Ouais. On fait ça. On se capte, on se dit alors avec plaisir. Et justement, comment. Alors, peut-être tu nous diras demain comment c'était, mais comment tu l'as préparé ?
Comment tu le penses ?
Ouais, comment tu le penses, pardon, mieux ?
Déjà, je le pense moins long. Parce que je pense que ça va durer moins longtemps que l'an dernier, on avait fait durer jusqu'à tard. Et je le pense avec plus d'écoute, et c'est un peu une dualité, hein. Je le pense à la fois avec plus d'écoute, donc quelque chose de plus précis entre guillemets, et à la fois quelque chose, vu qu'il y a moins de temps, j'ai quand même envie d'envoyer, d'aller droit au but, et voilà. Et après moi je suis dans le moment présent, et du coup je prépare pas vraiment, ça dépend de ce qu'il y a eu avant, de l'ambiance, des gens, de ce que je ressens, et du coup ça me laisse toute la spontanéité Voilà, donc je prépare pas mes sets.
Je l'avoue.
Mais je le prépare à l'intérieur. Mais
il y a quand même une sacrée question de précision, comme tu disais, que ça soit à la fois dans le choix des groupes ou à la fois justement dans le fait de bah voilà, là j'ai moins de temps pour faire quelque chose, mais je vais aller au but.
Ouais,
quoi.
C'est ça. Et puis il y a un sacré lien entre faire de la programmation musicale pour un festival et faire DJ, parce que c'est aussi de la programmation, mais en mode morceau après morceau, et comment on amène le truc. Donc il y a un fil conducteur en fait, de mélange d'univers et de qui me plaît beaucoup à moi. Voilà.
Comment tu définirais voilà 1 2 3 4 l'univers de cette édition pour l'instant, de l'édition 2017 du Festival Dolt?
C'est très dur de te le dire maintenant. C'est hyper dur.
On aura remarqué que
maintenant.
Je suis vraiment une enflure dans les questions.
Mais
je
grave.
Pense que ça, c'est terrible.
On l'a refait dans 3 jours.
Non, mais loin de moi l'idée de te forcer de répondre à un truc. Ça serait quand même pas très sympa.
Ouais.
Et tout d'un coup, mais
je sèche.
On te retrouve du coup à 1h45 sur le principe pour finir la soirée.
Ouais.
Et puis je vais me tourner vers la troisième personne, celui qui est au milieu du collectif Balles Perdues. Salut.
Bonjour.
Salut. Est-ce que parce que comme je prépare très très bien mes émissions, j'ai pas noté ton nom.
Moi c'est Manuberk.
Manuberk. Et donc tu fais partie du collectif Balles Perdues.
Eh oui.
Et vous étiez en résidence ici.
Exactement. On est resté 15 jours en résidence ici. Et là je suis tout seul parce qu'ils sont en plein filage, parce qu'on joue demain à 14h.
C'est vrai. C'est vrai.
Donc voilà, je suis tout seul et je représente le collectif.
Toi, tu as été celui qui a été envoyé.
Exactement.
En fait, simplement le représentant. Ça va ? Pas de pression ?
Les micros, toujours un peu, mais ça.
Alors, j'ai envie de te demander, alors, parce que là aussi, de nouveau, alors on reste sur des étiquettes, hein, mais comme on se passe là-dessus, c'est marqué théâtre paysage. Alors,
oui.
Je suis très curieux de ce qu'on sous-entend par là.
Bah alors, c'est un collectif qui s'est rencontré à la FEAR à Marseille. C'est une formation dans l'art et l'espace public. Et du coup, cet intitulé, ça définit un peu le collectif, parce qu'on est toujours en recherche d'espace périphérique, on va dire. On n'est pas une compagnie qui joue sur la place de la mairie ou sur la place de public classique. On cherche toujours un peu des espaces, soit périphériques, soit en friche, soit un peu extérieurs au centre-ville. On a toujours cette demande de pouvoir faire des repérages en amont. Et du coup, des fois, c'est compliqué pour les structures de nous recevoir, parce qu'on demande 4 jours de repérage. Et là, grâce à un partenariat avec l'Ateline, on a pu travailler 15 jours ici et d'explorer certains paysages.
Bah, alors, je pense qu'en paysage, ici, on est en plus très bien servi. Mais alors, justement, une résidence de 15 jours ici, comment ça se passe ? Comment ça s'est passé, justement, ces 15 jours de création ?
Alors, moi, j'avoue que je suis arrivé que la semaine dernière.
Ah, mais ouais,
j'ai laissé
ouais,
le collectif travailler 15 jours. Mais ça s'est très bien passé, et surtout... La particularité de travailler dans l'espace public, c'est les rencontres, les accidents, tout ce qui se passe sur place. Et là, on a eu une super rencontre avec Le Sentier, qui est un foyer qui accueille des jeunes migrants, on va dire, qui sont là depuis 2 ans, je crois. Et on a pu travailler avec eux, parce que le spectacle traite de cette question-là.
Et eh ben justement, puisque tu abordes ce sujet-là, j'avais envie de vous poser la question des réfugiés. C'est quelque chose qu'on entend beaucoup, que ça soit dans des médias dominants ou alternatifs. C'est quelque chose qui est très présent dans le monde de l'art et notamment dans le monde du théâtre. Ouais. Comment vous en parlez ? Comment vous êtes dit, tiens, on va parler de ça, comment on va faire en fait ?
Alors, on a commencé à travailler sur ce travail il y a 2 ans et c'était pas encore l'hystérie médiatique autour de la question migratoire. Hein. Quand on a entendu toute cette hystérie autour de cette question-là, on s'est dit, oula, là, il y a problématique, comment on va en parler ? Et du coup, on s'est dit, on n'a pas envie d'en parler à la place d'eux, on n'a pas envie d'en faire du misérabilisme, du pathos. On s'est dit, on va parler de nous à notre place face à ces naufrages contemporains que l'on voit à travers que le prisme des médias, finalement, que l'on ne vit pas et que l'on ne comprend que à travers ce prisme-là. Du coup, on s'est dit, ouf, ça va être plus fin et peut-être plus humble de parler de nous à notre place. Et on parle peut-être même plus d'une colère commune qu'on peut avoir à travers ces sujets-là. Notamment moi qui écris, qui viens du Pays Basque. Et du coup, on a une colère qui n'est peut-être pas la même, mais on a des revendications communes peut-être.
Vraiment d'exprimer comment vous, à travers vos yeux, même à travers votre compréhension, en fait, simplement, comment vous abordez en fait toute cette situation et cette question-là ?
Eh bien, avec beaucoup de prudence. On essaye d'être le plus humble possible et le plus élégant, et voire même, parfois, on se permet d'en rire. Mais alors, de manière la plus fine possible, mais il y a des tonalités humoristiques. Je vais donner un exemple, moi, je viens donc du Pays Basque, et à Baïgorri, un tout petit village comme le Blémar, on a accueilli quelques réfugiés. Et il s'est trouvé que quand ils sont arrivés, la communauté s'est dit mais qu'est-ce qu'on va leur faire faire, mais on sait pas quoi leur faire faire, etc. Donc ils les ont amenés voir Star Wars 7, par exemple. Ça a été la première logique, ils se sont dit mais on va les amener voir Star Wars 7.
Tout à fait.
Donc par exemple...
Comme ça j'aurais pas pensé, mais oui.
Alors j'ai trouvé ça assez rigolo, dans la forme, et je me suis dit tiens je vais en faire un chapitre. Parce que j'ai une spécificité aussi, c'est d'écrire en chapitre. C'est pas du théâtre classique avec une narration, c'est l'histoire de... J'écris en chapitre, j'écris en 26 chapitres, et du coup j'ai fait un chapitre spécial Star Wars Bayouri.
D'accord.
Et ici on l'a transformé en Star Wars le Blémard. Parce qu'on se réadapte à chaque fois selon les lieux où on joue. Quoi.
Pas mal. Comment, et c'est vrai que j'ai posé un petit peu la question à tout le monde, mais comment toi tu t'es retrouvé, enfin vous, vous vous êtes retrouvé au Festival d'Olt, et notamment en résidence en fait.
Eh bien, c'est assez simple. Nous avons joué l'an dernier en compagnie découverte au festival Artour à Montville, à côté de Toulouse. Et là, dans le public, se trouvait Seb, qui a bien aimé la proposition. Et il s'est dit comment on peut faire venir cette jeune compagnie chez nous. Du coup, il a trouvé le partenariat avec l'Ateline, qui a fait que l'Ateline a clairement financé notre venue et nous a permis de travailler ici et de jouer ici.
Et
nous en sommes ravis.
Je ne doute pas. Et alors la question pour revenir à ce que vous disiez avant, justement, travailler de manière très très humble, on a dit un petit peu d'où c'était venu, mais après le travail, comment il s'est fait justement de travailler justement de ce côté humble, en fait, simplement, comment il s'est fait le travail ?
Ben alors nous ne sommes pas des militants, on ne travaille pas dans des ONG, on ne s'est pas déplacé sur des camps de réfugiés à Calais pour travailler la question, on a simplement notre place de citoyen d'aujourd'hui, qui lisons la presse, qui regardons les médias, et on s'en inspire un peu tous les jours, et de là c'est tissé un imaginaire du maintenant, du ici et maintenant, et à travers donc cette il y a aussi l'idée d'une culture zapping aussi dans cette écriture en chapitre. On est cette génération un peu zapping qui une info en chasse l'autre, et du coup il y a cette idée là de se nourrir d'articles de presse, de reportages télé, de ce qu'on peut voir et côtoyer.
Et on vous retrouve quand lors du festival ?
Demain, 14h.
Demain, 14h.
Ouais.
Bah, merci beaucoup en tout cas d'être venu. Merci à tous les invités qui ont joué autour de ce plateau. On a hâte de tout entendre et de tout voir. C'est terrible parce que moi du coup j'ai envie de tout voir. Là, c'est terrible. Merci beaucoup Julien de m'avoir accompagné tout le long de ce plateau, d'avoir rendu ce plateau possible.
Ouais, pas trop, mais merci Camille.
Merci. Et merci beaucoup à Corentin d'avoir réalisé cette émission. Et bon, on vous laisse avec la très bonne playlist de 48FM ou de Bartas. Et puis on vous dit
on va écouter Révérende Beatman qui passera demain, qui fera l'ouverture et la fermeture de la soirée de demain. Et voilà, à bientôt.
Et voilà, à bientôt. Ciao à tous. I got a mother. I call my mother mother. And my mother, she has a father. And this father had a sexual relationship with my grandmother. And they made a child. And this child from my father and my grandmother had sex with my brother. Because my brother, he was a homosexual, but had a sexual relationship with my mother. And they had a child as well. And this child is now the father from my brother, and the brother is the sister from my grandfather, and the grandfather is the brother from my other sister. I see the light. I see the light straight in my head. I see the light blowing my head off. Yeah, lose track. My father, my grandmother, my great-grandmother, my daughter, my other niece, and my sister and the grand-
48FM et Radio Bartas sont au Festival d'Olt au Blémard. Un festival résolument envoûtant.
Du cirque,
des arts de rue,
des plumes,
des marionnettes,
du blues trash,
du trip-hop baroque,
des masques
et du rock garage exotique. Une édition chamanique qui ne laissera personne hors de la ronde festive. Le Festival d'Olt du 25 au 27 mai au Blémard avec le Rude Boy Crew.